tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. C'est la première phrase de S'adapter, le dernier roman de Clara Dupont-Mono, publié chez Stock en 2021. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour de cette lecture. Une lecture qui remue. Je vous lis le début du roman. Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé, inachevé également, tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel, une main sert à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait, néanmoins, au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était même très beau. On parlait doux pour ne pas brusquer l'enfant si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur d'oranger. Il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Un bébé de la région qui lui appartenait. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé de vent. L'enfant était accepté, semblable aux autres. Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs, tout était dans l'ordre. Au bout de 3 mois, on s'aperçut que l'enfant ne babillait pas. Il demeurait silencieux la plupart du temps, sauf pour pleurer. Parfois, un sourire se dessinait, un froncement de sourcils. Un soupir après le biberon, un sursaut lorsqu'une porte claquait. C'était tout. Pleurs, sourires, froncements, soupirs, sursauts, rien d'autre. Il ne gigotait pas. Il restait calme. Inerte, pensaient ses parents sans le dire. Il ne manifestait aucun intérêt pour les visages, les mobiles suspendus, les hochets. Surtout, ses yeux sombres ne se posaient sur rien. Les yeux de l'enfant caressaient les paysages et les gens. Il ne s'attardait pas. Un jour, alors qu'il se reposait dans son transat, sa mère s'agenouilla. Elle tenait une orange. Doucement, elle passa le fruit devant lui. Les grands yeux noirs n'accrochaient rien. Il regardait autre chose. Personne n'aurait su dire quoi. Elle passa encore l'orange, plusieurs fois. Elle tenait la preuve que l'enfant voyait mal ou pas du tout. Dans le roman de Clara Dupont-Mono, nous sommes dans une famille cévenole. Une fratrie de 3 enfants, un garçon dont on ne connaît pas son nom. Il est l'aîné. Au début du récit, il a 9 ans, et puis on le verra grandir. De même, la fille, elle est, dans le roman, la cadette. 7 ans au début du récit, et il y a un Benjamin handicapé, aveugle, paralysé, qui finira par s'éteindre à l'âge de 8 ans. C'est un enfant qui n'a pas la faculté de préemption, qui ne peut pas communiquer avec son entourage. Il est l'enfant. Dans le récit, Nous avons de drôles de narratrices. Ce sont en effet les pierres qui racontent. Les pierres de la cour, des murs de la maison. Et ces pierres s'adressent au lecteur comme dans un conte, ce qui insuffle à la fois une certaine légèreté au récit et en même temps inscrit l'histoire dans le temps long puisque cela permet de l'ancrer dans un cadre immuable qui est le berceau de la famille et des ancêtres. L'ancrer dans la mémoire aussi. Les pierres sont les témoins. Nous, les pierres rousses de la cour qui faisons ce récit, nous nous sommes attachés aux enfants. C'est eux que nous souhaitons raconter. Enchâssés dans le mur, nous surplombons leur vie. Depuis des millénaires, nous sommes les témoins. Les enfants sont toujours les oubliés d'une histoire. On les rentre comme des petites brebis. On les écarte plus qu'on ne les protège. Or, les enfants sont les seuls à prendre les pierres pour des jouets. Ils nous nomment, nous bariolent, nous couvrent de dessins et d'écritures. Ils nous peignent, nous collent des yeux, une bouche, des cheveux d'herbe, nous empilent en maison, nous lancent pour faire un ricochet, nous alignent en limite de gaule ou en rail de train. Les adultes nous utilisent, les enfants nous détournent. C'est pourquoi nous leur sommes profondément attachés. C'est une question de gratitude. Nous leur devons ce récit. Chaque adulte devrait se souvenir de l'enfant qu'il fut. On trouve également dans le roman une forte présence de la nature, la puissance de la nature, son influence et puis aussi son interaction avec les personnages. La nature, c'est la montagne Cévenole, un environnement géographique âpre et austère. La montagne manifestait sa présence, murmure des cascades, du vent, vol des libellules. Ses parois étaient faites de schiste, une pierre si friable qu'il est impossible de la tailler. Elle provoquait des éboulis. On enviait la fidélité adamantine du granit ou du basalte plus haut dans la région, ou encore la porosité absorbante du tuffeau vers la Loire. En même temps, qui pouvait offrir autant de nuances ocre? Quelle pierre, autre que le schiste, offrait cet aspect feuilleté, prêt à fondre? C'était à prendre ou à laisser. Habiter là, cela voulait dire tolérer le chaos. Et maintenant, assis sur un parapet, les parents sentaient qu'il leur faudrait appliquer cette logique à leur vie. Les parents sont comme à l'arrière-plan dans le roman, et c'est sur la fratrie que l'auteur dirige la focale. Autour du frère handicapé, chacun des deux enfants, le frère, l'aîné, la sœur, la cadette, adopte une attitude différente. D'abord, il y a l'aîné. Sa ligne de route, c'était de faire comme la montagne, protéger. L'inquiétude ourlait sa vie. Il touchait les mains de l'enfant pour vérifier sa température, ajustait l'écharpe de sa cadette, lui interdisait d'approcher les rayoles, ces petites brebis nerveuses qui avançaient en rang serré sur la route. Un jour, elle revint avec un loir blessé. Il lui ordonna de le jeter à l'eau. Il éprouvait envers sa sœur ce même réflexe protecteur qui lui interdirait plus tard d'avoir des enfants. À trop frémir au moindre bruit du monde, à craindre le pire, on n'équilibre personne. C'était le prix à payer, pensait-il. C'était sa mission, inscrite aussi profondément que les stries ocre qui ornent les pierres. La fois où l'on avait abattu l'immense cèdre près du moulin, tout le monde avait cherché les enfants pour qu'ils voient le spectacle. Ils étaient introuvables. L'aîné, qui craignait qu'une branche ne blesse sa sœur, l'avait emmenée plus haut, dans la montagne, cueillir des asperges sauvages. Ils passèrent la matinée, penchés vers le sol, à guetter les torsades hérissées d'épines. Il se fit punir, resta impassible, car pour lui, cela ne se discutait pas. Abattre un cèdre était dangereux, il avait éloigné sa sœur. C'était sans appel, puisque la vie peut renverser les bonheurs si facilement, puisqu'une enfance peut basculer, un corps ne pas répondre, des parents souffrir. Un jour, un professeur lui demanda ce qu'il souhaitait faire comme métier. Il répondit « aîné ». L'aîné, c'est donc le protecteur. Il a pour son petit frère handicapé un amour inconditionnel, fusionnel. Il s'en occupe comme le ferait une maman. Il veille sur lui. Il essaie de développer chez lui le sens de l'ouïe et celui du toucher pour communiquer. Et puis, il veut le mettre en contact avec l'environnement. Puisque le petit est aveugle et ne peut pas bouger, il le porte aussi dans la nature pour lui faire entendre ses bruits. L'aîné lui massait souvent les cuisses avec de l'huile d'amande, car il s'était attaqué au toucher. Il ouvrait doucement les petites mains toujours fermées pour les poser sur une matière. Du collège, il la rapporta de la feutrine. De la montagne, des petites branches de chêne vert. Il pressait l'intérieur de ses poignets avec une brassée de menthe, faisait rouler des noisettes sur les doigts, lui parlait toujours. Les jours de pluie, il ouvrait la fenêtre et glissait le bras de son frère à l'extérieur afin qu'il sente le contact de l'averse. Ou bien il soufflait doucement dans sa bouche. Le miracle avait souvent lieu. La bouche de l'enfant s'étirait en un immense sourire assorti d'un filet de voix ravie. C'était Béa, un peu niais. Cela prenait appui sur un silence et cela repartait, un peu plus aigu, un peu plus ouvert. C'était une musique, pensait l'aîné. Il ne se demandait pas, comme le faisaient ses parents la nuit, quelle aurait été sa voix s'il avait pu parler, quel caractère aurait été le sien, enjoué ou taciturne, casanier ou turbulent, quel aurait été son regard s'il avait pu voir. Il le prenait tel qu'il était. Et l'on verra un peu plus avant dans le roman que lorsque l'enfant s'éteindra, l'aîné restera inconsolable, fidèle à son chagrin. Et en effet, il ne fondera pas de famille. Il a un caractère taiseux, cet aîné. Et puis, il y a la cadette. La cadette qui n'accepte pas. Dès sa naissance, elle lui en a voulu. Très précisément au moment où sa mère avait passé une orange devant ses yeux et conclu qu'il ne voyait pas. La fenêtre de sa chambre donnant sur la cour, elle avait vu la tache vive du fruit, sa mère s'accroupir, entendu son filet de voix tendre et chantant, puis plus rien. Elle se souvenait du crissement rageur des cigales, la dégringolade du torrent, le rire pouffé des arbres secoués de vent. Et pourtant, de cette musique d'été ne subsistait que la tête baissée de sa mère, une orange dans la main. Elle avait compris que cet instant-là était celui de la fracture. C'était fini. Son père avait beau faire l'optimiste Promettre qu'à l'école, ils seraient les seuls à savoir jouer aux cartes en braille, elle n'était pas dupe. Elle voyait bien le voile dans le regard de son père, et surtout son sourire, un sourire de bouche uniquement, tandis que ses yeux restaient sans expression, plantés vers le lointain. Mais son frère aîné avait marché dans ce grand mensonge, avait négocié d'être le premier à apporter un jeu de tarot en braille à l'école, lui avait promis des parties, rien qu'elle et lui. Alors la cadette avait opiné. Et maintenant, l'enfant régnait. Il aspirait toutes les forces, celles de ses parents et de son frère aîné, les premiers affrontés, le second fusionné. À elle, il ne restait rien, aucune énergie pour la porter. Plus l'enfant grandissait, plus il la dégoûtait. Elle ne l'aurait avoué à personne. Cette petite fille est une petite fille en colère. Et elle va trouver refuge auprès de sa grand-mère, j'ouvre les guillemets, la seule personne qui allégea son cœur. Elle exprime la jalousie envers le petit frère qui lui a volé l'attention de l'aîné. Elle exprime même son dégoût envers le petit corps handicapé, comme on le voit dans l'extrait que j'ai lu. Elle éprouve également un sentiment de honte et pour cela, elle n'invite jamais de copine à la maison. Mais cette petite fille est pleine de vitalité et d'énergie. Et plus tard, elle va bien s'en sortir, elle fondera une famille et à son tour s'entourera d'enfants. Oui, à un certain moment de son adolescence, elle va réagir. Après cela, la cadette eut la paix. Elle devint seule, elle qui était si sociable, seule avec une mission, empêcher la noyade de sa famille. Si alors quelqu'un lui avait dit qu'au contraire, un bel amour l'attendait, qui ferait fondre ses barrages et aimer la vie, elle aurait ri. Et pourtant, cela se produirait. La cadette trouverait quelqu'un qui lui apprendrait l'abandon. Mais à cette heure, elle ne savait encore rien des miracles. Et puis, dans cette famille, il y aura un autre enfant. C'est le dernier de la fratrie. C'est une naissance qui vient après. C'est un enfant qui n'a pas connu le petit frère handicapé et qui donc restera en dehors de cette période qu'il n'a pas vécue. Dans le roman, on l'appelle le dernier. Le dernier a conscience qu'il est celui qui doit consoler, qui doit réparer. Et il va accepter ce rôle et par sa présence, c'est lui qui va maintenir le lien familial. Le dernier n'avançait pas seul, il le savait. Il était né avec l'ombre d'un défunt. Cette ombre ourlait sa vie, il devrait faire avec. Il ne s'insurgea pas contre cette dualité forcée, au contraire, il l'intégra à sa vie. Ainsi donc, un enfant handicapé était né avant lui, avait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Les absents étaient aussi des membres de la famille. Souvent, mû par un instinct hors d'âge, il se redressait la nuit. Dans cette famille, plus personne ne dormait correctement. Le sommeil était le moulage des peines, ils portaient leur empreinte. Le dernier se levait, constatait qu'il avait senti juste. Il tombait sur son père qui lisait devant le poêle éteint, ou sur sa mère assise sur le canapé, les yeux vides, ne regardant rien, errant sur les objets. Alors, il s'asseyait à côté d'eux pour discuter doucement de tout, de rien, proposer une tisane de mûrier, raconter l'école, l'accident du camion de la coopérative. Il les protégeait, comme on s'assied près d'un enfant malade. Il sentait bien que ce n'aurait pas dû être son rôle, mais il sentait aussi que le sort aime défaire les rôles et qu'il fallait s'adapter. Cela n'appelait ni réflexion ni révolte. Les choses étaient ainsi données. En lui, il y avait une bonté profonde. Dans le sourire qu'un rayon de soleil faisait naître et qui nous semblait presque adressé, beaucoup y auraient vu une naïveté. Qui sourit aux pierres? Mais nous avions reconnu là une noblesse, celle de la gentillesse, qui suppose le courage de s'ouvrir avec la certitude ô combien précieuse qu'un jugement déplaisant n'entamera pas cet élan. La force de la gentillesse le rendait autonome, imperméable à la bêtise, sûr de son instinct. Ainsi armé, le dernier avait spontanément accepté l'étrange famille dans laquelle il était né, une famille blessée mais courageuse qu'il aimait plus que tout. C'était pourquoi il prenait soin d'abord de ses parents. Ainsi, dans cette famille, chacun trouve sa voie et un certain équilibre dans le rôle qui lui est dévolu ou qu'il s'est lui-même assigné. Dans le roman de Clara Dupont-Mono, on trouve, au détour d'une page, une forme d'interrogation. Interrogation sur ce qu'est la norme, sur ce qu'est la différence. La différence, en effet, ne peut-elle pas être une richesse? Qui est inadapté? On posait l'enfant sur un canapé, la tête calée sur un coussin. Cela suffisait à le rendre heureux. Il écoutait. À son contact, l'aîné a pris le temps creux, l'immobile plénitude des heures. Il se coula en lui, comme lui, pour accéder à une exceptionnelle sensibilité. Froissement au loin, rafraîchissement de l'air, murmure du peuplier dont les petites feuilles retournées par le vent brillent comme des paillettes, épaisseur d'un instant chargé d'angoisse ou rempli de joie. C'était un langage des sens, de l'infime, une science du silence, quelque chose qu'on n'enseigne nulle part ailleurs. À enfant hors norme, savoir hors norme. Penser l'aîné, cet être n'apprendrait jamais rien. Et de fait, c'est lui qui apprenait aux autres. Voilà. S'adapter est un roman qui raconte les liens familiaux indéfectibles. Il raconte ce qui relie dans une famille. Ce qui relie dans une famille, c'est le passé, inscrit à jamais dans les cœurs et les mémoires. J'ai particulièrement apprécié la pureté qui se dégage de ce roman, la pudeur aussi avec laquelle est affirmée la dignité de chaque être humain. Lorsqu'on lit ces pages, attention, des larmes peuvent couler, car il s'agit d'un roman émouvant, poignant à bien des égards, mais sans sentimentalisme déplacé. Bien sûr, sont évoqués le chagrin des êtres, la famille en souffrance, les difficultés matérielles et administratives qu'il faut affronter, le regard des autres aussi, et la honte que ce regard génère. Mais toujours, ce qui est mis en avant, c'est la résilience de personnes qui doivent s'adapter, justement, à ce que la vie leur sert. D'ailleurs, cette famille Sévenole, d'origine protestante, a une devise, j'ouvre les guillemets, loyauté, endurance, pudeur. On ne trouve pas d'atmosphère pesante, donc. Pas de blessure à vif que l'on gratterait sans fin. Mais nous avons là un récit d'une grande tendresse et délicatesse. L'auteur, Clara Dupont-Monod, est une journaliste qui a collaboré entre autres à l'hebdomadaire Marianne et qui a animé et anime toujours des émissions littéraires sur France Inter. S'adapter est son 9e roman. Les 2 précédents, Le roi disait que j'étais le diable et La révolte, étaient des romans dans la veine du roman historique qui évoquait la figure d'Aliénor d'Aquitaine. Pour ce dernier roman, S'adapter, elle a reçu en 2021 le prix Landerneau des lecteurs et le prix Goncourt des lycéens et le prix Fémina. Dans son roman, il y a un point de départ autobiographique, comme elle a pu le confier dans un article de l'Express du 1er septembre 2007. Voilà ce que Clara Dupont-Monod disait à l'époque. Mon petit frère était handicapé et j'ai souvent dû affronter les regards des gens dans la rue lorsque nous nous promenions. Cela m'a poussée à m'intéresser à cette notion de différence, de ce qui barbote dans la marge. Ce n'est pas un hasard si je le retrouve dans chacun de mes romans. Merci pour votre écoute et à un prochain livre.
All I've done so much wrong, but please give me strength to care.